France Musique.
À 49 ans, mon premier est l'un des plus grands barytons allemands de cette décennie. Élève de Dietrich Fischer-Dieskau et d'Elisabeth Schwarzkopf, l'intelligence de ses interprétations et sa voix, celle d'un conteur né, donne vie au répertoire schubertien comme personne. Mon second vient des fjords de Norvège. Son infaillible technique et la sobriété intelligente de son jeu en font, du haut de ses 46 ans, l'un des plus éminents pianistes de sa génération. Mes deux invités sont les gardiens d'un art dans lequel non seulement Schubert, mais aussi Schumann, Brahms, Wolf et Mahler ont excellé, celui du lead. Bonjour Matthias Gurn et bonjour Leif Ove Hansnes.
Bonjour, bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Il y a 85 ans, aujourd'hui, naissait à New York un compositeur, chef d'orchestre, un pianiste américain, auteur de nombreuses musiques de films, dont celle de La Guerre des Étoiles. C'était en 1977. Une petite idée peut-être?
Star Wars, John Williams.
Exactement. Vous allez parfois au cinéma, Leif Ove Hansnes?
Not so often. I don't have so much time. I used to go more.
Je manque un peu de temps.
It's impressive.
Mais disons, c'est très carré.
Et vous, Matthias Gurn, vous allez au cinéma de temps en temps?
I go to the movies, but I haven't seen so far Star Wars.
Mais je n'ai pas vu le premier Star Wars.
Alors
but
I've heard the music.
Mais je connais la musique.
Eh bien, on va écouter la bande originale d'un autre film qui va vous plaire, Leif Ove Hansnes, vous qui pêchez. On écoute. Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, bande originale signée John Williams, qui fête ses 85 ans aujourd'hui. Nous écoutions l'Orchestre National Royal d'Écosse. Il est 8h10. Bonjour Antoine Pecker.
Bonjour Saskia, bonjour à tous.
Et vous revenez ce matin sur les chiffres de l'industrie du disque, et en particulier ceux du streaming. Il pourrait y avoir eu quelques tricheries.
Eh oui, après avoir cru au téléchargement, toute la filière musicale n'a désormais plus qu'un mot à la bouche, le streaming. Et pour cause, hein, l'écoute de la musique en ligne est en plein boom, on en parle souvent ici même. En France, il y a eu en 2016 28 milliards de lectures en streaming, c'est-à-dire 10 milliards de plus qu'en 2015. Le streaming, c'est 47,5% du marché français de la musique enregistrée, et c'est ce qui, d'ailleurs, va permettre à l'industrie musicale d'être à nouveau dans le vert cette année, même si les chiffres définitifs seront publiés à la fin du mois. Et à l'échelle mondiale, les chiffres sont encore plus frappants. Le nombre d'abonnés payants à ces plateformes est passé de 8 millions en 2010 à 68 millions en 2015. Et le marché de miser évidemment sur l'essor de ces offres payantes, seul à même de compenser la baisse des ventes physiques. Je rappelle qu'aujourd'hui, le streaming peut être gratuit sur certaines plateformes avec écoute de publicité obligatoire ou payant par des abonnements de l'ordre de 10 euros environ par mois, avec alors généralement une meilleure qualité de son et une écoute sans pub. Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes musicaux. pas si sûr. Déjà, les artistes se disent lésés. Hein. Pour un stream gratuit, un musicien, selon l'Adami, touche seulement 0,0001 €. Mais en plus, les chiffres même du streaming doivent être pris avec des pincettes. Et oui, dans un communiqué, le SNEP, qui est le syndicat national de l'édition phonographique, dit avoir détecté des anomalies, car certains artistes, surtout dans le rap et le hip-hop, cumulent des scores d'écoute démesurés sur les plateformes de streaming audio. Une disproportion encore plus importante pendant les sorties d'albums. Comment cela est-il possible techniquement? A priori, alors tout est encore à mettre au conditionnel, des batteries d'ordinateur pourraient tourner en boucle et en continu pour gonfler les scores. 70 logiciels d'écoute en boucle suffisent pour propulser un titre dans le top 10. Encore plus alarmant, des publicités sur les réseaux sociaux proposent, avec une grille de tarifs, de gonfler des scores de streaming. Pour 500 000 écoutes sur Spotify, cela coûte 1 500 €.
Et quel est le but de cette tricherie, Antoine?
Plus il y a de streams, plus la rémunération des artistes augmente, on est d'accord. Et surtout, et c'est là que c'est intéressant, plus ils ont de pouvoir de négociation avec les maisons de disques. En plus, il y a un effet domino. Les radios musicales font souvent leur sélection en se basant sur les titres les plus streamés. Si la triche est avérée, cela entraînerait des questions de compensation, car forcément, les autres artistes seraient victimes de cette manipulation. Les revenus du streaming, c'est comme un gâteau dont on divise les parts. Mais attention, hein, cette question de tricherie révèle aussi une bataille entre majors et indépendants. Ce sont les majors, très présente au sein du SNEP, qui accuse le label indépendant Believe, représentant les artistes soupçonnés de tricherie. Même en passant du physique au numérique, l'industrie du disque est toujours gangrénée par ses luttes intestines.
Merci Antoine Pecker. Cette chronique est à retrouver en podcast sur francemusique.fr. On vous retrouve demain. Antoine, bonne journée.
Bonne journée à vous.
Saskia Duville, la matinale, France Musique.
Mathias Gürtner, Leif Ovensnes, vous campez au Théâtre des Champs-Élysées à Paris toute cette semaine. Les trois cycles magnifiques de Franz Schubert, La Belle Meunière, Le Voyage d'hiver, et puis Le Chant du Cygne également, La Belle Meunière, que vous avez interprété lundi soir au Théâtre des Champs-Élysées. Un premier mot, c'était comment, Mathias Gürtner?
The first impression was that it's... For both of us, I think very exciting to have the opportunity to sing this wonderful repertoire,
chanter ce répertoire magnifique,
which I think is one of the places in the world which is the best for this kind of
repertoire. Des villes les plus appropriées pour ce genre de répertoire. Le public est très ouvert, les gens écoutent avec leur cœur, ils proposent leurs émotions, et évidemment les attentes sont très fortes, mais en même temps le public est très généreux à Paris.
As much I can say about this concert, I enjoyed it very much.
Ce concert, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis ravi d'arriver au concert suivant.
Oui, effectivement, ça continue ce soir au Théâtre des Champs-Élysées avec Le Voyage d'hiver. Et puis, je le disais, hein, Le Chant du Cygne, ce sera pour vendredi. Ce cycle, notamment de la Belle Meunière, vous l'avez enregistré avec Christophe Eschenbach au piano. Je propose qu'on écoute tout de suite un extrait.
Ein Bächlein rauschen wohl aus dem Felsenquell, hinab zum Tale rauschen so frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde, nicht wer den Rat mir gab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab.
Nous écoutions Voine vers où, tiré du cycle La Belle Meunière de Franz Schubert. C'est en duo avec Leif Ove Andsnes que vous vous produirez au Théâtre des Champs-Élysées ce soir pour le voyage d'hiver et puis le chant du cygne vendredi. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ces cycles-là en particulier, Matthias Goerne? Schubert a quand même composé plus de 600 lieder.
It's for sure the most important
répertoire le plus important, non seulement de l'œuvre de Schubert, mais c'est l'Olympe, je dirais, de l'ensemble du répertoire des leaders. Et là, j'inclus Schumann, Brahms, etc. Et c'est tellement exceptionnel, mais j'ai choisi trois cycles, deux cycles plus le chant du cygne, joué donc par Leif Ove, ici présent.
This is the reason. I mean,
donc
the
voilà la raison. C'est un grand projet
so outstanding and important,
et c'est tellement exceptionnel qu'il n'est pas possible de parler simplement du Winterreise, c'est pas possible.
Matthias Goerne, est-ce que vous vous rappelez de votre première rencontre avec la musique de Franz Schubert?
Je
m'en souviens, j'étais très jeune.
J'ai écouté Venure,
je devais avoir 8-9 ans, j'étais malade, j'étais alité, je ne pouvais pas aller à l'école. J'ai écouté Peter Anders et Michel Aucheisen.
Encore
aujourd'hui, j'aime ça. Pour une espèce de nostalgie. Dans cet enregistrement, en plus, il y a une espèce de vérité, il y a de l'authenticité, et c'est naturaliste au sens noble du terme. Je ne veux pas dire naïf, hein, mais ça n'y a pas d'artifice. Ça a été enregistré en 1944 à Berlin. Ça, je l'ai appris beaucoup plus tard, mais je crois que ça joue un rôle important dans l'intensité. Et parce qu'évidemment, c'était un personnage nazi, mais Peter Anders, non.
Moi,
j'ai l'impression que l'impact de ce contexte sur l'enregistrement pour Anders, être humain, qui faisait face à une situation terrible à cette époque-là, donc on est vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, 44, et l'enregistrement revêt un caractère particulièrement existentiel.
Cette description de la musique de Schubert par Matthias Goerne, ça vous parle, Leif Ove Andsnes? Cette apparente naïveté qui révèle intense profondeur.
Well, I don't think he explained Schubert's music as naive.
Existential for sure. That was another naïve, existentielle. Voilà, ça, je suis tout à fait d'accord avec la fin de ces propos. Ces trois cycles de Lieder constituent des pièces maîtresses de toute la musique. Moi, je connais ça depuis l'adolescence et c'est la première fois que j'ai la possibilité de jouer ces trois cycles à la fois. Et avec Matthias, bariton exceptionnel, c'est un rêve qui se réalise pour moi. Donc, on joue à Paris, mais aussi à Bruxelles pendant une quinzaine et c'est une joie et ça représente des moments mémorables pour moi.
Vous avez, Leif Ove Andsnes, enregistré des sonates de Schubert au disque. Est-ce que vous appuyez sur l'imagerie de ces leaders de Schubert quand vous interprétez, quand vous jouez ces sonates?
Les sonates de Schubert sont différentes. Comment expliquer cela?
I did work a lot with the later sonatas from Schubert, and there is.
J'ai travaillé les dernières sonates de Schubert, et ce sont des morceaux très longs. Ça peut durer 20 minutes, par exemple. C'est un parcours très long, et c'est une musique incroyable qui vous plonge dans un paysage. Brendel a très bien décrit cela. Il a dit que c'était une espèce de parcours d'un noctambule. On recherche la vérité, on ne va pas directement vers un but, comme le fait un Beethoven, par exemple. Dans les sonates de Schubert, on est lancé dans un parcours et on se retrouve à la recherche de différentes choses. On est sur un chemin, on regarde les fleurs, on avance, c'est très très beau. Dans les leaders de Schubert, il est plus facile de saisir les choses, parce qu'évidemment la forme est plus brève et le récit des paroles rendent l'histoire plus claire. Les sonates sont fantastiques, mais je veux dire que c'est assez épuisant sur le plan psychologique que de les interpréter. Mais dans les deux cas, c'est formidable.
Thank you.
vous écoutez au piano Leif Overhansnes dans le Scherzo, troisième mouvement de la 20e sonate en la majeure Deutsch 959 de Franz Schubert. Alors ce soir, c'est aux côtés de Matthias Gürne qu'on pourra vous entendre, Leif Overhansnes, mais vous avez déjà enregistré ces leaders aux côtés d'autres chanteurs, notamment le ténor Ian Bostridge. Est-ce que vous faites les choses radicalement, de manière radicalement différente, selon que vous collaborez finalement avec Ian Bostridge ou avec Matthias Gürne?
Obviously, these are two very different artists, and
ce sont deux artistes complètement différents. J'ai déjà enregistré avec Bostridge il y a très longtemps, mais Mathias et moi, nous sommes lancés dans cette collaboration il y a un an seulement. Donc c'est comme si c'était un nouveau départ. L'interprétation de ce cycle d'un point de vue différent. Et j'essaye évidemment de mettre de côté, d'oublier ce que j'ai déjà enregistré. Et ça, c'est très important.
Et c'est faisable.
Mais j'essaye de garder mon intégrité. Et je me lance au piano dans cette vision énorme qu'a Mathias pour ce cycle. Et j'essaye de créer une sorte de cadre pour qu'il puisse s'exprimer. C'est formidable quand on est pianiste, parce qu'il y a de l'ombre, de la lumière, des tas de facettes que l'on peut actionner, tout cela pour mettre en lumière donc cette œuvre grâce à la voix notamment de Mathias.
Mathias Gürne, vos collaborations sont évidemment aussi multiples dans le domaine des leaders de Schubert. Rien qu'au 10, je pense que vous en avez enregistré avec pas moins de 7 pianistes différents. Qu'est-ce qui fait finalement votre alchimie spécifique avec Leif Overhansnes?
Let's stay with the Winterreise, for instance.
This Prenons l'exemple de Winterreise. Ça, c'est un des morceaux que j'ai le plus travaillé. Bon, je l'ai joué, disons, 240 fois. Mais j'ai joué avec pas mal de pianistes. Et il n'y a pas tellement de pièces qui se prêtent à cela. Le défi dans Winterreise, particulièrement dans notre collaboration fantastique avec Leif, c'est que c'est un parcours nouveau à chaque fois. Ce morceau repose sur la nature humaine, sur l'être humain, et la personnalité du pianiste apporte vraiment une dimension supplémentaire au morceau et à la compréhension qu'on peut s'en faire. Et moi, je dois trouver le moyen de trouver un équilibre. Parce que dans les répétitions, par exemple, on travaille, on avance dans le morceau et on peut être très concret dans notre discussion sur certains passages avec le tempo et ainsi de suite, mais on ne dit pas combien de temps on va passer là-dessus, cette petite pause-là, on va la marquer combien de temps, ou alors si on étend cette note-là, ou si on accélère, qu'est-ce que ça fait ? On ne parle pas trop de ça, mais dans Winterreise, il faut garder le champ des possibles le plus ouvert possible. Pour donner cette sensation que l'on invente les choses au moment où on est sur scène devant le public. C'est alors que ça devient vraiment intéressant. Et c'est là qu'on commence à émouvoir les gens. Parce que les gens ont l'impression qu'on est en train de leur livrer un récit qui sort spontanément de notre esprit et de notre cœur. Et ainsi, il y a une conversation qui s'établit. Il n'y a pas de différence entre la voix et le piano. Et avec un pianiste formidable, on y arrive. Mais si le pianiste n'est pas parfait, comme c'est le cas de Leif, on n'arrive pas à ça. Certains jours où je me sentais pas très bien, disons que je manquais de motivation pendant la répétition, mais dès que j'entends la première note, eh bien, toutes ces pensées négatives et ces impressions négatives disparaissent. Pas l'ombre d'un instant, je me sens fatigué ou ennuyé. C'est toujours quelque chose de nouveau. C'est une expérience de découverte permanente.
Et vous, Leif Overhansnes, vous êtes dans quel état d'esprit quand vous êtes sur scène en train d'accompagner Mathias Gürne?
Je crois que Mathias a très bien décrit cela. Et cette musique est un voyage dans les profondeurs de l'esprit humain. Donc il faut vraiment se livrer pleinement lorsque l'on interprète. Par ailleurs, il y a une telle palette d'émotions, et ça, c'est incroyable de toucher sur le doigt quand on travaille avec Mathias, 24 leaders, et on passe par toutes les facettes des émotions que l'on peut imaginer. Et évidemment, cela vous donne une perception nouvelle, et une perception nouvelle à chaque morceau et à chaque représentation.
Nous écoutions Gute Nacht, Bonne Nuit en Lied, qui ouvre ce cycle magnifique du voyage d'hiver de Franz Schubert avec vous, Matthias Görn, et puis au piano, Christoph Eschenbach. Matthias Görn, celui qui a immensément contribué finalement à la notoriété de ces grands cycles de Schubert, c'est Dietrich Fischer-Dieskau, dont vous avez été l'élève. J'imagine qu'il a été une grande source d'inspiration. Et qu'est-ce que vous transmettez? Vous avez enseigné le Lied. Je crois que c'était à Düsseldorf. Qu'est-ce que vous enseignez justement à vos étudiants dans ce répertoire-là en particulier ?
Oh, this is difficult because usually you are struggling.
Généralement, quand on enseigne,
much before you come to this point to talk about
on a beaucoup travaillé auparavant. Et donc parler d'interprétation, c'est difficile. En réalité,
and the life experience, I'm missing usually. The personality self of young singers.
Et je suis face à la personnalité de jeunes chanteurs, et dans des masterclass, évidemment, il y a des personnalités qui se détachent. Ce sont des artistes qui ont un bon équilibre de passion, d'ambition, de soif, d'exploitation de la musique pour qu'ils découvrent leur propre vie et qu'ils acquièrent l'expérience de la vie pour qu'ils comprennent de mieux en mieux leur vie par rapport à la musique. C'est ça la chose la plus importante. Comment l'enseigner? Ce n'est pas possible de dévoiler ses propres secrets pour les partager avec les autres, parce qu'il y a tant de ressorts psychologiques qui sont à l'œuvre que l'on ne peut pas partager cela avec des gens qui n'ont pas la même expérience de vie que vous. Quand j'ai, il y a 25 ans, non, il y a 30 ans même, quand je suis lancé dans ce projet, il m'a fallu un an pour comprendre ce que voulait Fischer-Dieskau. Donc j'étais très honoré de travailler avec lui, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour bien comprendre les bienfaits de son enseignement. Après un ou deux mois,
c'était difficile au début.
Je me posais la question.
Au tout début, c'était difficile.
C'était un enseignant amical, pas extraordinairement chaleureux, hein, mais très compétent. Donc moi, j'étais très motivé, mais pas inquiet. Hein. J'étais pas du tout inhibé. Je donnais tout ce que je pouvais. Je chantais. Et Anmer de Schwangesang, je me souviens de ça. Et les chants de Zemlinsky, Gleim Schwindlung, je crois bien. Donc j'ai chanté cela, il m'a dit « Ah oui, vous avez une belle voix, le tempo est bien et je sens que vous avez en vous la possibilité d'entrer en contact avec le public pour raconter une histoire. » Bon, mais maintenant, on va essayer de corriger tout ça. Donc c'était très stimulant parce que moi j'étais sûr d'avoir déjà touché du doigt la perfection. Évidemment, donc c'était une grande leçon d'humilité, ça c'était formidable. Mais après un an auprès de lui, je me suis aperçu que la plupart des messages qu'il me faisait passer portaient sur le tempo, l'articulation, le rythme, les couleurs, tout ce que je peux trouver dans la partition elle-même. Autrement dit, si on suit la partition à 100%, si on suit tout ce qui est écrit sur la partition, ce que vous avez là sous vos yeux de façon directe, eh bien, vous avez déjà fait 95% de l'interprétation. Évidemment, ce qui manque, c'est les 5%, les 5% magiques. Et dans ces 5%, il y a une quantité infinie d'espace dans lequel il faut se faire sa propre place, et il faut là mettre sa personnalité individuelle dans ces 5%, et c'est ça qui fait toute la différence.
Vous avez également été l'élève d'Elisabeth Schwarzkopf, ce qui fait de vous finalement l'un des principaux dépositaires de cette grande tradition du Lied. À ce titre, est-ce que vous vous sentez investi d'une certaine responsabilité, Matthias Görn?
It sounds always good when people say I have a responsibility to do this.
Alors on me dit que j'ai la responsabilité parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui se sont chargées de cela. Si je m'arrêtais de chanter, bon, personne s'en apercevrait.
And music is just with his presence, live in concert, really present in the mind of people.
On est présent dans le présent, certes. Il y a des enregistrements, il y a des disques, les gens se souviennent de vous. Mais si vous n'êtes pas sur scène, les gens vous oublient. Donc non, la responsabilité, elle est sur les épaules du compositeur. Je ne me sens pas investi d'une responsabilité envers les leaders, moi. Cette responsabilité que je sens, c'est qu'à chaque concert, je me sens le devoir de livrer tout ce que je peux pour arriver à toucher la signification, le sens profond de l'œuvre. Donc, il y a un côté où il faut se protéger, mais en même temps, il faut être ouvert et savoir prendre des risques pour apporter du sens, de la profondeur.
Especially in the combination with text, whatever it is, it can
la
be just a
musique
lead,
avec
a
les
song,
paroles, qu'il s'agisse de lead ou piano avec orchestre, un oratorio, de l'opéra, que sais-je encore. Eh bien, si on fait cela mal, eh bien, les gens savent immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que les gens sont concentrés sur vous, sur la voix, sur la musique, et il faut éviter la vacuité. Il faut éviter le divertissement avec une petite mélodie. C'est surtout ça qu'il faut éviter. Moi, je crois qu'il faut être très concentré. Et puis, pour bien réussir un concert, il faut un bon public. Il faut que le public réagisse. Pas simplement parce que le public est assis en silence. Non, il faut un public actif. Et ça, on le ressent, évidemment. Ce public actif, je le ressens particulièrement ici à Paris. À Paris, le public est, comment dire, très ouvert. On sent qu'ils ont ouvert leurs cinq sens. Ce n'est pas des gens qui viennent simplement au guichet, qui achètent leurs billets, certes chers, hein, notamment au Théâtre des Champs-Élysées, et qui s'assoient et qui disent « bon, allez, vas-y, chante ». Non, leur exigence va au-delà de cela. Ils ont un rôle à jouer et on en profite, nous, sur scène.
Et quel est l'objectif pour vous d'un récital de chant, Leif Vernsnes, en tant que pianiste?
I'm not sure there is an objective purpose to it. I mean,
objectif,
as Matthias said, we are trying
satisfaire.
To
comme Matthias vous l'a dit,
to give justice to this great music, to these great scores,
de rendre l'hommage qui lui est dû à cette grande œuvre,
which have given us some miracles,
œuvre qui
all kind of human emotions,
nous a proposé des miracles dans la palette des émotions humaines, la compassion et tout cela, c'est ô combien nécessaire de nos jours. Et si les gens repartent enrichis par ce que nous leur proposons, eh bien, nous avons atteint l'objectif. S'ils ressentent que le compositeur a réussi à faire passer ses émotions, son amour, ses besoins, ses désirs, ses joies, et ainsi de suite, si le public ressent cela grâce à nous, eh bien, très bien, nous mettons la musique en valeur, et ça fait de la musique un art ou un langage extrêmement profond, peut-être plus profond que tous les autres.
Leif Ovensnes, nous vous écoutions dans cet adagio du concerto en la mineur opus 16 d'Edvard Grieg avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Marie Sjansons à la direction. Leif Ovensnes, vous habitez en Norvège aujourd'hui. Est-ce que finalement la musique de vos compatriotes, la musique de compositeurs norvégiens vous parle autant que celle de Franz Schubert?
I think this is so... I always think it's extremely limited to think of nationalities in this way.
Il faut pas parler de nationalité quand on parle de musique.
Of course, I have played a lot of the music by Grieg because I is a Norwegian composer. I grew up with this.
Donc c'est un compositeur norvégien. Je le connais depuis que je suis tout petit. Mais quand on travaille certains morceaux de plus en plus, on les connaît mieux. C'est pas une différence. Il ne faut pas de hiérarchie. Mais j'ai joué plus de Grieg que d'Albéniz parce que non, j'ai grandi en Norvège et pas en Espagne, mais du Schubert, j'en ai joué énormément. Mais j'ai l'impression de pouvoir bien comprendre Schubert dans toute sa profondeur. Et bon, certes, je ne suis pas autrichien, en tant que Norvégien, je n'ai pas de mal à comprendre les propos musicaux d'un autrichien.
Mathias Gurne, Leif Ovensnes, vous jouerez ce soir au Théâtre des Champs-Élysées à Paris Le Voyage d'hiver de Schubert. Et puis vendredi, ce sera Le Chant du Cygne, toujours de Schubert. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin.
Merci beaucoup.
Et puis à très bientôt.
C'est beaucoup. Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.